Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
T'as d'un côté ces Occidentaux un peu déboussolés, en quête de sens, qui viennent souvent dans le cadre d'une recherche thérapeutique, c'est-à-dire pour résoudre souvent des choses plutôt psy, dépression, addiction, des choses comme ça, des deuils. Ça s'inscrit souvent dans un parcours thérapeutique qui est passé par d'autres formes de psychothérapie, la psychanalyse, parfois même la psychiatrie. On a aussi des gens qui viennent pour des problèmes somatiques, hein, des douleurs, des choses comme ça, des maladies incurables. Il y a aussi des motifs plus spirituels, et puis il y a ces motifs plus politiques, voilà, où les gens cherchent aussi une autre manière de se relationner à la nature, une autre culture et un autre monde.
Lui, c'est David Dupuis. Il est anthropologue, spécialiste du chamanisme amazonien. Ses travaux portent sur les substances psychédéliques et leurs usages. J'ai commencé à m'intéresser au chamanisme et aux psychédéliques au début des années 2000 en découvrant les livres édités par l'Esprit Frappeur. Puis, j'ai vécu ma propre expérience psychédélique à base de champignons mexicains. Ça a chamboulé mes repères, créé de nouvelles connexions dans mon esprit et m'a permis d'avoir une autre vision de la vie. Au même moment, Yann Kounen sortait son documentaire « D'autres mondes ». Le sujet central, l'ayahuasca, un breuvage sacré à base de lianes d'Amazonie. Les informations que contenait ce documentaire m'ont fasciné. Et je ne devais pas être le seul. Évidemment, le but de cet épisode n'est pas de vous inciter à consommer des substances qui sont illégales en France, mais plutôt d'apporter un éclairage scientifique sur des pratiques ancestrales qui ne cessent de se démocratiser. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Psyché Déclic.
J'ai commencé l'anthropologie quand j'avais 22 ans, je suis parti en Amazonie la première fois, dans le cadre d'un master à l'EHESS à l'époque. Alors évidemment, je pense que comme tous les anthropologues, il y a ce désir un peu d'évasion, de recherche d'un ailleurs, voilà, qu'on peut avoir aussi à cet âge-là. Et il se trouve que à ce moment-là, donc c'était au début des années 2000, il y avait ce mouvement qui commençait à faire du bruit, qui était tous ces Occidentaux qui partaient en Amazonie pour aller rencontrer l'ayahuasca, comme ils disaient. Et il commençait à y avoir pas mal de gens qui revenaient à Paris après avoir fait ces expériences-là. Moi-même, je pouvais avoir des proches qui avaient déjà fait des expériences comme ça, et donc ça me parlait un peu. Et effectivement, les gens tenaient des propos qui m'avaient un peu marqué à cette époque-là, qui m'avaient interrogé, avec l'impression que les gens avaient rencontré des êtres là-bas, notamment l'esprit de l'ayahuasca, des ancêtres, des anges, des démons, etc. Et certaines de ces personnes-là que je connaissais, voilà, étaient parties complètement athées, voilà, enfin très français de base. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En deux semaines, ils partent en Amazonie, ils reviennent, ils ont parlé avec des esprits des plantes, ils ont discuté avec des plantes, avec des ancêtres, des démons, des anges, etc. Certains revenaient avec la foi. En tout cas, tous me parlaient d'une expérience très forte, la plus importante de leur vie, souvent, disaient-ils, et rapportaient le fait que c'était une expérience très transformatrice. Et finalement, moi, appartenant aussi à cette génération, je me suis joint à eux, mais sur un mode un peu spécial, qui était l'enquête ethnographique. Le tourisme chamanique, ça s'enracine dans des motifs assez anciens, finalement, qui datent au moins de la contre-culture californienne. Et donc, commence à naître, et là, évidemment, ça se concrétise beaucoup dans les années 60, des séjours d'Occidentaux, enfin, il y a des grandes figures d'Occidentaux qui se rendent en Amérique latine pour aller participer aux rites hallucinogènes, parce que c'est le moment aussi où il y a la découverte du LSD, où le LSD se répand, devient un élément central de la contre-culture américaine. Dès le départ, il y a un intérêt des cliniciens, des psychiatres pour ces substances-là. Il y a quand même cette idée très tôt, même dans le mouvement psychédélique qui émerge à ce moment-là, que ces substances peuvent être des substances thérapeutiques. Et donc il y a cette idée que des peuples auraient gardé au sein de leur pratique sociale l'usage des hallucinogènes et qu'il y aurait quelque chose à apprendre de ça. Il y a aussi, émerge à ce moment-là, cette idée que le chamanisme serait comme une sorte de religion primordiale de l'humanité. Et donc que pour se guérir des affres de la modernité, parce que c'est aussi le moment où émergent les problématiques écologiques, l'Occident prend conscience de quelque chose qui ne va pas dans son modèle de développement. Donc il y a cette idée qu'il faudrait faire comme un pas, un peu un retour en arrière pour repenser le développement, notamment pour penser un rapport plus harmonieux avec la nature. Et donc il y a cette idée qu'aller participer à des rites hallucinogènes dans des groupes indigènes, permet quelque chose comme le salut de l'Occident finalement. Alors l'ayahuasca, donc, c'est un mot quechua, ça désigne une plante, une liane, mais ça désigne le plus souvent le breuvage dont cette plante est l'un des composants. Alors cette plante contient plusieurs principes actifs, mais qui ne sont pas les plus psychotropes de la préparation. C'est souvent la plante avec laquelle on mélange l'ayahuasca qui contient le diméthyltryptamine, qui est le principe actif hallucinogène. Alors souvent cette plante, ça va être par exemple en Amazonie péruvienne, la feuille de chacruna, qui est un arbuste de la famille du café, qui contient du DMT. Sauf que le DMT est détruit quand tu le consommes par voie orale par des enzymes de l'estomac. Et donc dans la liane est contenu des IMAO, des inhibiteurs de monoamide oxydase, qui vont inhiber l'action de l'enzyme dans l'estomac, et donc qui vont permettre au DMT de passer dans l'estomac. Donc en gros, le mélange des deux plantes sert à faire un DMT actif par voie orale. Et alors ce mélange, on le retrouve dans plusieurs endroits en Amazonie, la liane est toujours la composante, mais ce qui va aller avec la liane, l'autre plante, ça peut varier. Au Pérou, par exemple, c'est la chacruna. Donc les deux plantes sont cuites pendant longtemps, ensemble, bouillies, jusqu'à ce que ça donne une sorte de sirop, enfin un liquide très épais, très amer, de couleur brun, orange, marron, qui est bu donc le plus souvent dans des cadres ritualisés.
Ça me fait penser que quelle que soit la plante utilisée, il faut toujours le faire dans un cadre rassurant, avec des gens qui connaissent cette plante, qui savent comment la préparer et qui peuvent en gérer les effets. Moi, ma prise de champi s'est déroulée avec mon père. Franchement, ça peut paraître étrange sur le papier, mais en pratique, c'était très très rassurant. Surtout qu'il maîtrisait très bien son affaire. J'ajouterais aussi qu'avant de s'aventurer sur des chemins psychédéliques, il vaut mieux être soi-même dans de bonnes dispositions.
Évidemment, il y a certains contextes dans lesquels c'est extrêmement déconseillé. Par exemple, voilà, les personnes qui ont déjà passé par des épisodes psychotiques, qui ont déjà vu des choses comme ça, là, on sait que c'est dangereux. Au niveau de la toxicité du breuvage, pour l'instant, l'état actuel de la connaissance scientifique indique qu'il n'y a pas de toxicité du breuvage, le breuvage n'est pas addictif. Par contre, c'est plus au niveau de la dimension psychologique, parce que quand les Occidentaux prennent l'ayahuasca, ils témoignent souvent de beaucoup de matériaux qui remontent, des souvenirs, des choses comme ça. Alors ça peut être utile éventuellement pour des pratiques psychothérapeutiques, mais voilà, il faut que la personne soit prête à faire face à ces matériaux-là. Si la personne n'est pas prête, si c'est trop intense, si elle est mal encadrée, ça peut être une expérience qui peut être plus traumatisante que thérapeutique. L'idéal, c'est simplement d'aller à un endroit où vous connaissez quelqu'un de confiance, qui a eu des bonnes expériences, qui peut vous dire que l'accompagnement a été de qualité, sécurisant, etc. L'expérience de l'ayahuasca est vécue par beaucoup d'Occidentaux comme une forme de psychothérapie. C'est investi aussi comme ça parce que les Occidentaux qui viennent ont cette culture de la psychothérapie. On dit de l'ayahuasca en Occident, c'est hallucinogène. Alors, ce qui donne une image assez biaisée en fait, de la substance, puisque ça donne une idée comme ça qu'on délire, que voilà, y a des images qui n'ont aucun sens, qui passent devant les yeux. Bon, c'est pas exactement ça. Déjà, c'est très émotionnel. Hein. Avant d'être visuel, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de vision. Par contre, des émotions ressenties très fortement, des perceptions ressenties très fortement, et notamment des nausées et le vomissement, ça, c'est pour tout le monde. Et donc, beaucoup de gens rapportent la perception d'émotions très amplifiée. Donc, beaucoup de personnes décrivent l'expérience de l'ayahuasca comme une sorte de loupe. Il faut savoir que c'est une substance qui active beaucoup l'air de la mémoire, et donc les gens ont beaucoup de souvenirs avec l'ayahuasca, on se souvient beaucoup, et souvent des souvenirs qui sont liés à des fortes saillances émotionnelles. Donc les gens ont souvent aussi des souvenirs qui sont liés à des émotions, alors des souvenirs traumatiques, aussi des bons souvenirs. Et alors il y a une autre propriété qui est souvent décrite par les participants, qui est cette chose de se voir en métaperspective, de se voir un peu de l'extérieur. Donc les participants souvent disent qu'ils se voient de l'extérieur, qu'ils comprennent des choses sur eux, qu'ils se voient agir dans la vie quotidienne, et alors souvent, voilà, les gens parlent comme ça, qu'il y a comme un lien qui se fait entre des émotions qu'ils ressentent fortement, comme je sais pas, de la peur, de la colère, de la tristesse, des souvenirs qui reviennent, où ils vont faire un lien, où on va se dire « Ah oui, mais en fait, j'ai cette peur, j'ai cette colère, j'ai cette tristesse parce que... » etc. Il s'est passé ça dans ma vie. Et des liens vont être faits avec leur vie quotidienne. « Ah, et je me comporte comme ça dans la vie parce que j'ai ces émotions, parce qu'il m'est arrivé ça, etc. » Et donc, beaucoup de participants témoignent du fait que l'ayahuasca leur permet de mieux se comprendre en tant que sujet psychologique, de mieux comprendre les dynamiques qui les animent, etc. Et puis, alors, il y a le vomissement. Alors ça, le vomissement, on n'en parle pas souvent, mais alors que c'est une dimension importante, qui est très importante d'ailleurs pour les autochtones. Hein. Souvent, pour les autochtones, c'est plus important la question. Les guérisseurs demandent souvent à la fin du rituel, bah, alors est-ce que t'as vomi ? Et si t'as pas vomi, bon, bah, t'es bon pour reprendre la fois d'après. Ils sont pas très intéressés par le fait d'écouter les récits de visions. Souvent, les Occidentaux adorent raconter leurs visions, veulent que les guérisseurs interprètent les visions. Bon, ça les intéresse pas trop. Par contre, la question du vomissement, c'est important parce que l'ayahuasca, on l'appelle dans la région là où je travaille, la purga, la purge. Donc cette idée de nettoyage, voilà. Et donc souvent, c'est vrai que quand les participants vomissent, ils rapportent le fait de vomir des comportements, des émotions, des souvenirs, et d'avoir une sorte comme ça de nettoyage, de choses qui... Voilà, c'est un mot qui est beaucoup utilisé par les participants de ces pratiques, voilà, le nettoyage. Donc ce sont des nettoyages, de compréhension, et puis aussi de... alors on sait aussi, les études par électroencéphalogramme ont montré que une activation de l'aire de l'imagination prospective, c'est-à-dire que c'est l'aire qui s'active quand on cherche des solutions à des problèmes. Et alors ça, c'est une propriété qui a été remarquée très tôt et valorisée par les pratiques autochtones, puisque en Amazonie, on appelle souvent l'ayahuasca la madré, la mère, et aussi la maestra, l'enseignante. Donc il y a cette idée qu'on va prendre l'ayahuasca quand on a une situation compliquée, difficile, qu'on cherche des solutions, des réponses. Et effectivement, les participants rapportent beaucoup voilà, le fait de trouver des solutions inédites à des problèmes qui se posaient. Donc voilà, ça c'est un premier niveau, plutôt psy, qui est assez facile d'accès, on va dire, pour les occidentaux. Et alors beaucoup de personnes rapportent un autre niveau, qu'on pourrait appeler spirituel, qui est le fait que dans ces expériences-là, par le biais de voix et de vision, se présentent des êtres dont les participants font la rencontre. Alors souvent, l'esprit de l'ayahuasca, d'autres esprits de la nature, mais des ancêtres, des anges, des démons, certains, voilà, me paraît de rencontrer même la Vierge, le Christ. Et avec ces êtres, ce qui est frappant, c'est que ce ne sont pas juste des rencontres ponctuelles, mais souvent, les personnes établissent des relations durables. C'est-à-dire qu'on prend l'ayahuasca, la personne rencontre l'esprit de l'ayahuasca, échange, alors voilà, souvent ils peuvent poser des questions, ça répond, voilà, il peut y avoir des discussions, des conseils, etc. Puis ils vont reprendre 3 semaines après, 1 mois plus tard, et ils vont retrouver le même être et reprendre la discussion là où il avait laissé. Donc ça, ces relations-là, elles sont très importantes pour les participants. Elles changent souvent évidemment leur vision du monde, hein, parce que pour les occidentaux, ça change quelque chose, le fait de faire... Comme ça, la rencontre concrète et tangible d'entités surnaturelles. Et souvent, c'est vrai que les personnes témoignent du fait que ces relations leur donnent du soutien dans la vie et viennent même parfois réparer les manques et les ratés des relations humaines.
Je me souviens que lors de ma propre expérience psychédélique, j'avais eu des visions. Ma première vision, c'était une sorte de petit être malin qui s'était formé avec la fumée d'un cul de joint. Il m'avait salué et m'avait dit « bienvenue » dans un large sourire. Le voyage commençait bien. Ensuite, je m'étais demandé si je verrais apparaître mon animal totem. Et peu de temps après, une belle et magnifique tête de loup était apparue.
La grande question souvent qui se pose, c'est « ah, est-ce que c'est réel ? Est-ce que c'est la réalité ? Est-ce que c'est mon imagination ? Est-ce que c'est une projection psychologique ?» Alors ça, c'est très intéressant parce que ça préoccupe souvent beaucoup les Occidentaux. Et ce qui est intéressant, c'est que ça intéresse beaucoup moins les autochtones. Et d'ailleurs, je me souviens que moi, je posais souvent la question à mes amis guérisseurs autochtones, et souvent, ils bottaient en touche quand je leur demandais « mais alors pour toi, est-ce que les esprits existent ?» etc. Puis au début, je pensais qu'ils ne voulaient pas me répondre, puis j'ai fini par comprendre que, pour certains d'entre eux en tout cas, en fait, ils ne comprenaient pas très bien ma question. Et je crois que ce n'était pas tant que pour eux, c'était évident que ça existait, mais plutôt que... Pour eux, c'était vraiment pas ça la question importante. Et je voyais bien que eux, ce qui les intéressait surtout, c'était la question de... C'est une relation, et dans cette où je me trouve dans cette relation. Quelle relation j'entretiens avec cet être ? Est-ce que, notamment, il me domine ? Est-ce qu'il va me bouffer ? Ou est-ce que c'est moi qui l'utilise ? Et souvent, quand les guérisseurs échangent avec les occidentaux sur ces questions-là, ils invitent plutôt les occidentaux à se défaire de cette question... Donc à un moment, bon, on arrive un peu au bout de cette idée de vérification et la plupart des Occidentaux finissent par lâcher l'affaire et se dire, bon, en fait, qu'est-ce qui se passe là pour moi dans cette expérience ? Est-ce que ça m'est utile ? Est-ce que ça me fait du bien ? Oui, non. Et puis on y va ou on arrête.
Continuer ou s'arrêter, c'est à vous seul de le décider. Faire le voyage ou ne pas le faire, c'est à vous seul de l'envisager. Mais cet entretien avec David était déjà un voyage en soi. Pour conclure cet épisode, j'avais envie de partager avec vous une citation qui m'a marqué. Elle est signée Aldous Huxley, l'auteur des Portes de la Perception. « L'expérience, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous faisons de ce qui nous arrive. » Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos proches. Je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle expérience.
Psyché Déclic, le podcast des états modifiés de conscience par Alexis Birambeau, produit par le studio Grande Contrôle.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.